Audiolib présente Les Victorieuses de Laetitia Colombani, lue par l'auteur.
À ma mère, à ma fille, à toutes les femmes du palais. Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et froid, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai, je me battrai, je me battrai, je me battrai. William Booth. Une chose est certaine, les morts hantent les lieux où ils ont vécu, comme si, par un principe d'infusion, leur souvenir imprégnait le sol. Sylvain Tesson, une très légère oscillation. Le sol est glacé. Telle est la pensée qui me vient, alors que je suis allongée là, le front contre la pierre, les bras en croix. Aujourd'hui, je choisis cet endroit comme demeure éternelle. Je prononce mes vœux perpétuels. Tel est mon choix. Entre ces murs, je vais passer ma vie. J'ai voulu me soustraire au monde pour mieux en faire partie. Je suis à la fois en son cœur et loin de lui. Je me sens plus utile ici que dans les faubourgs animés qui m'entourent. Dans ce cloître où le temps a arrêté son cours, je ferme les yeux et je prie. Je prie pour ceux qui en ont besoin, ceux que la vie a blessés, entamés, laissés sur le bord du chemin. Je prie pour ceux qui ont froid, qui ont faim, qui ont perdu l'espoir, qui ont perdu l'envie. Je prie pour ceux qui n'ont plus rien. Ma prière s'élève d'entre les pierres, dans ce jardin, ce potager, cette chapelle glacée en hiver, cette cellule minuscule que l'on m'a attribuée. Vous qui passez dans ce monde, poursuivez vos chants et vos rondes. Je suis là, dans le silence et l'ombre, et je prie pour qu'au milieu du fracas et du bruit, si d'aventure vous veniez à tomber, une main se tende, douce et puissante, une main amie, qui vous agrippe et vous relève et vous renvoie sans vous juger. Dans le grand tourbillon de la vie, où vous continuerez à danser. Sœur anonyme, couvent des filles de la croix, 19e siècle. Chapitre 1. Paris, aujourd'hui. Tout s'est passé en un éclair. Solène sortait de la salle d'audience avec Arthur Sinclair. Elle s'apprêtait à lui dire qu'elle ne comprenait pas la décision du juge à son encontre, ni la sévérité dont il venait de témoigner. Elle n'en a pas eu le temps. Sinclair s'était lancé vers le garde-corps en verre et l'a enjambé. Il a sauté de la coursive du 6e étage du palais. Durant quelques instants qui ont duré une éternité, son corps est resté suspendu dans le vide. Puis il est allé s'écraser 25 mètres plus bas. La suite, Solène ne s'en souvient pas. Des images lui apparaissent dans le désordre, comme au ralenti. Elle a dû crier, certainement, avant de s'effondrer. Elle s'est réveillée dans une chambre au mur blanc. Le médecin a prononcé ces mots, « burn out ». Au début, Solène s'est demandé s'il parlait d'elle ou de son client. Et le fil de l'histoire s'est reconstitué. Elle connaissait depuis longtemps Arthur Sinclair, un homme d'affaires influent, mis en examen pour fraude fiscale. Elle savait tout de sa vie, les mariages, les divorces, les petites amies, les pensions alimentaires versées à ses ex-femmes et ses enfants, les cadeaux qu'il leur apportait de ses voyages à l'étranger. Elle avait visité sa villa à Sainte-Maxime, ses somptueux bureaux, son superbe appartement du 7e arrondissement de Paris. Elle avait reçu ses confidences et ses secrets. Solène avait passé des mois à préparer l'audience, ne laissant rien au hasard, sacrifiant ses soirées, ses vacances, ses jours fériés. Elle était une excellente avocate, travailleuse, perfectionniste, consciencieuse. Ses qualités étaient unanimement appréciées dans le cabinet réputé où elle exerçait. L'aléa judiciaire existe.